Vous écoutez RFI les midis à Paris, 11h en temps universel. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, les débuts de la conférence de l'ONU sur le changement climatique. Hôte de cette conférence, le président de l'Azerbaïdjan défend le droit des pays à exploiter les ressources pétrolières et gazières, des ressources qu'il compare, je cite, à un cadeau de Dieu. Au Liban, des frappes israéliennes ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Israël exclut tout cessez-le-feu au Liban tant que ses objectifs n'auront pas été atteints. On connaît maintenant la date des prochaines législatives en Allemagne. Ce sera le 23 février prochain, des élections anticipées provoquées par l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz. Ils sont presque 200 chefs d'État ou de gouvernement présents à la conférence de l'ONU sur le changement climatique. En ce qui concerne maintenant, les absents ne viendront pas à Bakou, les dirigeants des grands pays pollueurs, ni l'Américain Joe Biden, ni le Chinois Xi Jinping. Mais on ne verra pas non plus les chefs d'État et de gouvernement de plusieurs poids lourds européens comme la France et l'Allemagne. Explication Pauline Glaise.
Seule une poignée de dirigeants du G20 seront présents. Or, ces pays émettent plus des trois quarts des gaz à effet de serre et représente 85% du PIB mondial, pas anodin dans une COP centrée sur la finance. Néanmoins, si les discours des dirigeants donnent un signal, leur absence n'obère pas nécessairement l'issue des discussions qui s'achèveront au niveau ministériel. D'ailleurs, Xi Jinping n'est plus venu depuis 8 ans, et plus que l'absence de Joe Biden, c'est l'élection de Donald Trump qui affaiblit la parole des négociateurs américains. Les Européens jurent qu'ils redoubleront d'efforts pour compenser, mais ni Emmanuel Macron, ni Olaf Scholz, ni Ursula von der Leyen ne font le déplacement. Dans ce contexte, le Royaume-Uni pourrait essayer de jouer une carte. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, devrait, selon le Guardian, annoncer sa contribution déterminée au niveau national. Londres viserait une réduction de 81% de ses émissions d'ici 2035. Par ailleurs, des dirigeants absents de Bakou seront la semaine prochaine au Brésil pour le sommet du G20, qui sera scruté à Bakou. Plus tôt dans l'année, le G20 a promis de travailler sur une taxe sur les super-riches.
Pauline Glaise du service environnement, pays hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan défend le droit des États à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières. Son président Ilham Aliyev l'a dit ce matin dans son discours à l'ouverture du sommet des dirigeants mondiaux à Bakou. Il a redit, assumé son expression « cadeau de Dieu » pour désigner les hydrocarbures qui ont fait la richesse de son pays. L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Déclaration de la très probable prochaine chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Elle s'exprimait ce matin à Bruxelles devant les eurodéputés. Les 5 années de son mandat ne s'annoncent pas faciles, a-t-elle prévenu. Je vois des coalitions d'autocrates se former autour de nous et des bouleversements géopolitiques menaçants, a dit l'ancienne première ministre estonienne. À l'image de Kaya Kallas, les poids lourds de la nouvelle commission ont commencé leur grand oral devant le Parlement européen. On connaît maintenant la date des prochaines élections législatives en Allemagne. Ce sera le 23 février 2025. On l'apprend de sources proches du chancelier Olaf Scholz. Ces élections ont été provoquées par l'éclatement de sa coalition au pouvoir. Outre les sociodémocrates, elle comprend les écologistes et les libéraux. En France, le difficile parcours au Parlement du projet de budget 2025. Aujourd'hui, place au vote de la partie recettes. Les députés sont appelés à voter cet après-midi une version très largement remaniée par rapport au projet initial du gouvernement. Elle pourrait être rejetée avant de poursuivre sa route au Sénat. La coalition gouvernementale devrait voter contre cette version avec, a priori, le concours du Rassemblement national. C'est aujourd'hui qu'est officiellement lancé le choc des savoirs, projet initié l'an dernier par Gabriel Attal afin de relancer l'ascenseur scolaire. Anne Genté, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, marche quasiment sur ses pas. Aram Beng, bonjour.
Bonjour.
Quel est le projet de la ministre pour améliorer le niveau des élèves?
Alors, pour relancer l'ascenseur scolaire, comme elle le dit, Anne Genté va mettre en place des groupes de besoins sur mesure, notamment pour les classes de 4e et de 3e. Une mesure qui ne diffère diffère pas vraiment de celle annoncée en 2023 par Gabriel Attal. À l'époque, l'ancien ministre de l'Éducation nationale prévoyait la création de groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. Eh bien, la nouvelle ministre de l'Éducation va dans le même sens avec ce qu'elle présente comme l'acte 2 du choc des savoirs. Le très controversé concept des groupes de niveau est maintenu. Il est seulement rebaptisé groupe de besoins. Déjà mis en œuvre cette année pour les élèves de 6e et de 5e, il devait être élargi à la rentrée prochaine en 4e et en 3e. Cependant, Angente a décidé que sa mise en place dans les deux dernières classes au collège serait partielle, avec une heure de cours de soutien par semaine, soit en maths ou en français. Autre annonce concernant le brevet, son obtention sera obligatoire pour passer en seconde à partir de 2027 au lieu de 2025, comme prévu dans l'acte 1. Et quant au bac, une épreuve anticipée de mathématiques en première sera mise en place en 2026 comme prévu.
Des effectifs pour mener à bien ces mesures sont-ils prévus, Aram ?
Alors, d'après la ministre, toutes ces mesures nécessitent la création de 1500 postes composés en partie de redéploiement de personnel et aussi de recrutement de nouveaux enseignants. Une annonce qui pourrait tout de même laisser certains dubitatifs, d'autant que le projet de finances du budget de l'éducation nationale prévoit la suppression de 4000 postes. Angente promet également deux fois plus de moyens pour renforcer des mesures déjà existantes, comme le dispositif de soutien pour faire des devoirs au collège et celui d'accompagnement des élèves les plus en difficulté dans la recherche de stage dans les entreprises.
Merci Aram Beng. On reste en France. C'était le 7 novembre dernier. Le Parlement votait une loi dite Airbnb, une loi pour mieux encadrer les logements meublés de tourisme. Ces logements sont en partie responsables de la crise de l'immobilier, notamment dans les villes et les régions touristiques. À Marseille, l'équipe municipale a décidé de prendre le taureau par les cornes pour limiter les meublés touristiques. Une brigade est chargée de supprimer toutes les boîtes à clés dans l'espace public. Reportage de Sophie Bourlet.
Dans le quartier du Panier à Marseille, trois hommes de la régie municipale sont en train de scier une boîte à clés à l'aide d'une disqueuse. Elle était accrochée sur une rambarde d'escalier en mobilier urbain public.
On a un papier avec tant de boîtes à clés à découper, c'est pas nous qu'on décide. Puis il y a une date, c'est-à-dire qu'ils ont 15 jours les personnes pour pouvoir les enlever eux-mêmes. Si d'ici 15 jours, ils ne les ont pas enlevés d'eux-mêmes, on est obligé de passer de les enlever.
Ces boîtes à clés permettent d'accéder aux locations sans passer par une remise en main propre. Dans le centre-ville, elles sont partout, près d'un logement sur 10 et dédiées au tourisme. Patrick Amico est l'élu de la ville, responsable du logement. Il veut aller plus loin qu'une simple chasse à la boîte à clés.
Nous allons, nous, mettre en place des dispositifs dès le début de l'année qui vont extrêmement limiter la capacité à installer ces résidences secondaires sans compensation par la création de logements familiaux. Parce qu'on a pu constater que sur un an, par exemple, on a perdu 2100 logements familiaux au profit des résidences meublées tourisme. Dans une situation de crise extrêmement importante du logement sur Marseille, vous imaginez bien que cette situation ne peut pas durer.
Une rue plus loin, Jordan est assis en terrasse. Il est venu en week-end à Marseille. Ce Lyonnais a choisi de louer un Airbnb moins cher qu'un hôtel. Pourtant, il comprend les mesures de la mairie.
Pour le vivre dans la ville où je vis actuellement, elle se vide de ses habitants et c'est que des touristes. Et puis ça se ressent dans les commerces parce que c'est soit que des restaurants ou alors ça ferme ou alors des boutiques de touristes. Et c'est une part de l'âme de la ville qui se perd.
Pour les habitants, la cohabitation est parfois pénible. Abel, 72 ans, vit au Panier depuis 25 ans.
Il faudrait les annuler complètement. Et ils foutent un bordel quand ils y sont et ils s'en foutent de tout. Ils n'ont pas le respect du voisinage.
Une nouvelle loi dite Airbnb a été votée par le Parlement. Elle encadre les usages dans les copropriétés et diminue les exonérations fiscales des meublés de tourisme. Mais pour les propriétaires, il reste plus avantageux de louer à des touristes plutôt qu'à des habitants. Auguste Lafont est président du syndicat des propriétaires des Bouches-du-Rhône.
Je ne pense pas que ça fasse une révolution. La grande réforme, c'eût été de dire on peut faire l'un ou l'autre et la fiscalité est la même.
Une situation qui ne favorise pas l'offre de logements longue durée. À Marseille, le maire Benoît Payen souhaite mettre en place la réglementation la plus stricte de France. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
Et j'ajoute que l'an dernier, 2,5 millions de Français attendaient un logement social et 4 millions étaient concernés par le mal-logement. Enfin, au Liban, des frappes israéliennes ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. L'armée israélienne avait appelé la population à évacuer plusieurs parties de cette banlieue. Le ministre de la Défense israélien exclut tout cessez-le-feu au Liban tant que les objectifs d'Israël n'auront pas été atteints. Voilà, c'est la fin du journal. Mais l'information continue sur RFI à suivre. Grand reportage.